RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
L'émission en français avec Inès Azagra et Guillermo Brown.
Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus à une nouvelle émission en français sur les ondes de Radio Extérieure d'Espagne. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'Iran moderne, et plus particulièrement de celui qui s'est levé contre l'autoritarisme à la suite de la mort de l'activiste Mahsa Amini. François-Henri Désérable vient de publier El deterioro del mundo, una travesía por Irán, l'abîmement du monde, un voyage à travers l'Iran. C'est un cahier de voyage inspiré du livre de Nicolas Bouvier, dans lequel le lecteur accompagne ce dernier dans les différentes aventures et mésaventures dans ce pays du Moyen-Orient. Ensuite, toujours au Moyen-Orient, notre collaboratrice Elsa Yazbek-Sharabati nous parlera de la situation à Gaza dans sa chronique hebdomadaire. Et vous écoutez le musicien du Mali, Ali Farka Touré. À la technique, Puerto Martín, et au micro et dans vos oreilles, Inés Azagra et Guillermo Bravo. Depuis les studios de Radio Extérieure d'Espagne à Madrid, nous vous offrons les informations de l'Espagne et de l'étranger. En Espagne, l'activité politique est désormais centrée dans les élections régionales en Catalogne. Le gouvernement central les scrute de tes prêts pour anticiper son prochain mouvement. Esquerra Republicana, parti de gauche indépendantiste au pouvoir, a souffert un échec dans son plan budgétaire mercredi. Leur réponse a été aussi rapide que surprenante lorsque son président, Pere Aragonès, a annoncé la convocation d'élections régionales pour le 12 mai. Ce mouvement a pris par surprise à son principal adversaire politique dans la région, les indépendantistes conservateurs de Junts per Cat, et au gouvernement central de socialiste Pedro Sánchez, qui dépend de ces deux partis pour pouvoir faire face à passer son plan budgétaire national. Le président Pedro Sánchez a annoncé qu'il renonce à élaborer et faire passer ce plan budgétaire de 2024 et qu'il se concentre déjà sur celui de 2025.
No era realista pensar que podía haber unos presupuestos generales del Estado con tres procesos electorales en marcha.
Le ministre Félix Bolaños a justifié la décision de son gouvernement du fait que c'était inabordable de prévoir un budget national en même temps qu'il y a plusieurs procès électoraux en même temps, en faisant référence aux élections régionales catalanes et aux européennes. Actualisation de la situation à Gaza avec notre correspondante Elsa Yazbek-Sharabati.
Bonjour à toutes et à tous. Plus d'enfants ont été tués dans la bande de Gaza en 4 mois de guerre avec Israël qu'en 4 ans de conflits à travers le monde. Une déclaration alarmante faite par Philippe Lazzarini, le patron de l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient. Il a d'ailleurs dénoncé, je cite, « une guerre contre les enfants ». Fin de citation. En effet, selon les Nations Unies, plus de 12 000 enfants sont morts depuis l'offensive israélienne sur la bande de Gaza après les attaques du 7 octobre, un chiffre vertigineux à un moment où les États-Unis soulignent qu'Israël doit faire de la protection des civils et de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza sa priorité numéro 1. C'est ce qu'a souligné mercredi 13 mars le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Selon un observateur, il faut dire que ce qui se passe à Gaza ressemble plus à une extermination de la population civile, femmes et enfants surtout, qu'à l'élimination du Hamas, pourtant affiché par Israël. D'ailleurs, en plus des bombardements, la famine sévit dans ce territoire palestinien, coupé du monde par l'armée israélienne. L'aide humanitaire arrive au compte-gouttes. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, l'armée israélienne a resserré ses contrôles sur l'aide qui entre dans la bande de Gaza, en proie, selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, à une catastrophe humanitaire. Face à l'insuffisance de l'aide arrivant par voie terrestre dans le territoire dévasté par des mois de guerre, la communauté internationale cherche à diversifier les voies d'acheminement via des largages aériens ou encore avec un projet pilote de corridor maritime entre Chypre et Gaza. Entre-temps, au Liban voisin, alors que les échanges de tirs entre le Hezbollah et Israël étaient majoritairement contenus au sud du pays depuis le début des hostilités entre les deux parties le 8 octobre dernier, la région de la Bekaa, loin du Liban Sud, a été visée par 4 frappes aériennes les lundis 11 et mardi 12 mars. L'hécatombe a été évitée de peu, mais le bombardement a coûté la vie à une figure du football local. En réponse, le Hezbollah a pour sa part tiré une centaine de missiles Katyusha sur le quartier général militaire israélien. Ces derniers jours, Tel Aviv hausse le ton et les propos menaçants adressés par un ministre israélien à l'égard du Liban ont capté l'attention internationale, exacerbant les craintes d'une confrontation plus large. Elsa Yazbek Charabati.
Bienvenue à l'émission en français.
L'écrivain François-Henri Désérable a traversé l'Iran au cœur de la répression contre les manifestations qui ont suivi la mort de Mahsa Amini. Et vous êtes revenu avec le roman L'usure d'un monde, une traversée de l'Iran, sorti en Espagne le 21 février sous le titre en espagnol de El deterioro de un mundo, una travesía por Irán. Donc déjà, merci de vous rendre disponible pour l'émission en français de Radio Extérieure et bonjour.
Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation.
Alors, je voulais commencer cette première question. Pourquoi avez-vous voulu suivre ce qui s'est passé en Iran en suivant les traces de Nicolas Beauvier ? Donc, il faut savoir, écrivain voyageur qui, au début des années 50, accompagné de Thierry Vernet, décida de traverser de la Yougoslavie à l'Afghanistan.
Oui, alors tout est vraiment parti de la lecture à l'âge de 25 ans de L'usage du monde de Nicolas Beauvier, donc qui est un écrivain voyageur suisse et qui en 1953-1954 va faire un voyage d'un an et demi à travers la Yougoslavie, l'Iran, jusqu'à la passe de Khyber en Afghanistan. Et moi, j'avais lu ce livre et vraiment ça avait été une très grosse déflagration dans ma vie de lecteur, et je m'étais promis de partir un jour sur ses traces, de refaire une partie du voyage. Et je devais partir en Iran début 2020. Il y a eu le confinement, La frontière a été fermée pendant longtemps. Et j'ai donc repoussé mon voyage à fin 2022. Or, le 16 septembre 2022, une jeune fille qui était originaire du Kurdistan iranien vient rendre visite à son frère à Téhéran, et la police des mœurs qui patrouillait dans le coin estime qu'elle porte son voile de manière un peu trop négligente. On la met dans un fourgon et elle est tabassée, et elle tombe dans le coma et elle meurt et elle est enterrée le lendemain à Saqqez au Kurdistan iranien, et lors de son enterrement, eh bien quelqu'un dans la foule se met à crier Jinjiana Azadi, ce qui veut dire femme, vie, liberté. Et ce cri du cœur parti du cimetière de Saqqez, eh bien, il va se propager à travers tout l'Iran, et le nom de cette jeune fille, Mahsa Amini, va devenir comme le mot de passe, en quelque sorte, du soulèvement contre un régime liberticide. Et bon, mon voyage était prévu, et j'avais d'autant plus envie d'y aller à ce moment-là. Je n'y ai pas renoncé, précisément parce que les journalistes n'avaient plus accès à l'Iran. Et comme moi, je n'étais pas journaliste, eh bien, j'avais eu un visa, et je voulais pouvoir témoigner de la réalité de ce qu'il se passait là-bas.
Mais donc, vous avez lu cet ouvrage à l'âge de 25 ans, donc ça fait quasiment 10 ans. Qu'est-ce qui a fait que vous vouliez partir 10 ans après, et en suivant ces traces ? Parce que vous...
Oh bah, c'est, vous savez, moi, en vérité, en littérature, je trouve que les sujets importent assez peu. Et ce à quoi je suis le plus attaché, c'est à la singularité d'une langue. Et celle de Beauvier m'avait particulièrement touché, particulièrement ému. Nicolas Beauvier est un immense styliste. Et lorsque j'ai lu dès la deuxième page de L'usage du monde, j'ai su que ce livre allait devenir une bible pour moi, en quelque sorte. Et après, j'ai lu tous les autres livres de Beauvier, puisqu'il n'a pas écrit que L'usage du monde. Il a écrit, par exemple, Le poisson scorpion ou des chroniques japonaises. Et il a pris très rapidement une place dans mon panthéon personnel. Et bon, disons que j'ai eu la curiosité de voyager En regardant la carte du monde. Hein, Beauvier a une très belle phrase, il dit « C'est la contemplation silencieuse des atlas entre 10 et 13 ans qui donne ainsi l'envie de tout planter là. » Et moi, je regardais la carte du monde, je voyais des noms qui me faisaient rêver, et j'avais envie que ces noms puissent convoquer des images, des sensations et des souvenirs.
Vous arrivez en novembre 2022. Au plus fort moment de la répression contre les manifestants qui suivent la mort de Mahsa Amini, il y a déjà plus ou moins 500 morts, 15 000 manifestants en prison, des appels qui vous déconseillent ce voyage. Vous n'avez pas eu peur? D'où vient ce courage de partir en Iran seul à ce moment-là?
C'est quand même c'est vrai que lorsque...
On est comme ça.
Lorsque je suis sur le point de partir, je monte dans l'avion et je reçois un appel d'un numéro inconnu. Et bon, moi, lorsqu'un numéro est inconnu, je décroche parce que je suis toujours curieux de savoir qui se trouve à l'autre bout du fil. Et c'était le centre de crise du ministère des Affaires étrangères français. Et il y a quelqu'un qui me dit « Écoutez, monsieur Desérables, vous nous avez fait part d'un projet de voyage en Iran et je vous en conjoins, renoncez-y parce que vous faites face à un risque d'arrestation et de détention arbitraire très élevé. Il y a plusieurs de nos compatriotes qui sont actuellement, qui croupissent dans les geôles de la République islamique parce que l'Iran pratique une diplomatie des otages en quelque sorte. Et donc s'ils vous arrêtent, ils vous font passer pour un espion et ils vous condamneront à des mois, si ce n'est des années de prison, et on ne pourra vraiment pas faire grand-chose pour vous. » À ce moment-là, eh bien, l'avion allait décoller, donc il était déjà trop tard. Mais de toute façon, je savais les risques que j'encourais, mais il m'a semblé qu'il était légitime de les prendre, précisément parce que plus personne ne pouvait aller en Iran, parce que les Occidentaux n'y avaient plus accès, et qu'il fallait bien pouvoir témoigner de ce qu'il s'y passait.
Nous allons faire une petite pause musique, je vais vous mettre une chanson.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای
La chair de poule quand j'écoute cette chanson, donc à peine 10 jours après la mort de Mahsa Amini, cette chanson, Barry, a un succès incroyable, même si les gardiens de la révolution décident d'effacer la vidéo, c'est trop tard, tout le monde la connaît par cœur. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu sur cette chanson et quand vous l'avez écoutée là-bas en Iran, comment ça a été?
C'est vraiment une chanson sublime qui est devenue l'hymne de la contestation contre le régime de la République islamique, qui a été écrite et interprétée par Shervin Hajipour, qui est un jeune chanteur iranien issu d'un télécrochet. Et quelques jours après la mort de Mahsa Amini, il la poste sur YouTube et en l'espace de moins d'une semaine, eh bien, la chanson a déjà été vue et écoutée plus de 40 millions de fois. Alors, et forcément, les gardiens de la Révolution vont s'empresser de la censurer, ils vont arrêter Shervin Hajipour, ils vont le relâcher, et là, figurez-vous que Shervin Hajipour, donc ce jeune chanteur, vient d'être condamné, là, il y a quelques jours, à 3 ans et 9 mois d'emprisonnement pour avoir écrit et interprété cette chanson. Donc il est actuellement en prison, ce qui démontre bien la réalité, la répression absolue et féroce de ce régime, et l'immense courage qu'il y a à le combattre et à donner de la voix pour s'y opposer.
Et à la fois, il me semble, c'est un peu contradictoire, parce que je viens de voir qu'il avait gagné un Grammy, qu'il avait remporté un prix pour meilleure chanson de changement social ou quelque chose comme ça. Donc bon, c'est incroyable de savoir que maintenant il va être incarcéré. Pendant que dans d'autres pays...
Oui, sa notoriété ne l'a protégé en rien. C'est quelqu'un qui est suivi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, qui est devenu une des grandes figures de la contestation. Et aujourd'hui, eh bien, il croupit dans les geôles de la République islamique. Et quand on connaît les conditions de détention en Iran, il y a vraiment de quoi être inquiet.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant ce voyage? Et j'aimerais bien aussi savoir, de vos propres mots, qu'est-ce que vous pensez du tarof de cette hospitalité iranienne?
Alors justement, la première chose qui m'a marqué, c'est l'hospitalité iranienne. Bouddhé en parle très bien dans L'Usage du Monde, et il y a une phrase que j'ai placée en épigraphe de mon livre, en épigraphe de L'Usure d'un Monde, où il dit « Ici où tout va de travers, nous avons trouvé plus d'hospitalité, de délicatesse, de bienveillance et de concours que deux personnes en voyage n'en pourraient attendre de ma ville où pourtant tout marche bien. » Eh bien moi, j'étais persuadé que cette hospitalité iranienne, elle était un peu surfaite. Je me disais que, bon, sans doute que les Iraniens n'étaient pas, n'étaient plus, en tout cas aussi hospitaliers qu'ils l'étaient dans les années 50. Eh bien pas du tout. Jamais je n'ai rencontré un peuple aussi curieux à l'égard de l'étranger, aussi ouvert, aussi désintéressé, aussi ouais, et aussi hospitalier. Donc j'ai été très touché par l'hospitalité iranienne, même si évidemment parfois, on peut se demander, en raison du tarof, qui est un code de politesse non écrit qui régit les relations en Iran, les relations sociales en Iran, on peut se demander, on peut légitimement se poser la question de la réalité des offres qui vous sont faites. Par exemple, si vous vous trouvez, si vous faites la queue au guichet d'une banque, eh bien, les Iraniens qui sont devant vous vont systématiquement vous proposer de passer devant eux. Alors évidemment, vous refusez, mais ils vont renouveler leur proposition. Et si vous acceptez, eh bien, en vérité, ils pourraient s'en offusquer. Donc, le tarof peut parfois vous réserver des surprises. mais néanmoins, c'est vraiment un peuple très hospitalier. Et la deuxième chose qui m'a profondément marqué, et davantage que marqué, que j'ai trouvé bouleversante, c'est le courage de cette jeunesse iranienne. Et je dis bien de cette jeunesse parce que la plupart de ceux qui manifestaient, eh bien, c'était des lycéens et des étudiants qui allaient à l'université. Et moi, j'en ai rencontré plusieurs que j'ai croisés en chemin, c'est-à-dire que je n'ai même pas cherché à les rencontrer. C'est eux qui venaient à ma rencontre, qui venaient spontanément me parler. Et pour vous citer un exemple qui m'avait particulièrement marqué, c'est celui d'une jeune fille que je rencontre à Ispahan, au sommet d'une petite montagne qui s'appelle le Mont Sophé. Et cette jeune fille me raconte que elle est très impliquée dans les manifestations, qu'elle colle des affiches sur les murs, qu'elle poste des vidéos sur Instagram pour s'opposer au régime. Et elle me dit qu'elle n'a pas peur de mourir, mais qu'elle est terrifiée à l'idée d'aller en prison. Et pourquoi est-ce qu'elle a peur d'aller en prison? Parce qu'elle sait la réalité des prisons iraniennes. Elle sait qu'on y pratique allègrement la torture, elle sait que les filles, les femmes y sont souvent violées, certaines réclament même la pilule pour ne pas avoir à tomber enceinte de leur bourreau, et donc elle avait peur d'aller en prison. Et pour se préparer à cette éventualité, eh bien, elle apprenait des poèmes par cœur. Et elle me disait, voilà, si on me prive de ma liberté, si on me prive de ma dignité, si on me prive de ma famille, de mes amis, si on me prive de sommeil, de nourriture, il y a une toute petite chose qu'on ne pourra pas me prendre. Et cette chose, eh bien, ce sont les vers que j'aurai appris par cœur, que je connais par cœur, et que je me réciterai en attendant soit la mort, soit la liberté. Et lorsque vous entendez ça dans la bouche d'une fille qui a à peine 20 ans, eh bien, la moindre des choses que vous pouvez faire, c'est d'en porter le témoignage, c'est de vous faire le greffier de ce courage inouï de la jeunesse iranienne.
J'ai la chair de poule en vous écoutant, en imaginant cette jeune femme à apprendre des vers et des poèmes, parce que c'est bien vrai, ils ne pourront jamais être dans sa tête. Donc vous êtes un écrivain voyageur, d'où vient cet intérêt de voyager et d'écrire à la fois? Et qu'est-ce que le fait de voyager implique et transforme dans votre expérience personnelle et dans le processus de création d'écriture?
J'imagine que l'une des raisons pour lesquelles je voyage, c'est parce que je suis assez dépourvu d'imagination et que j'ai besoin, en tout cas, pour que mon imaginaire commence à galoper du coup de cravache du réel. Et lorsqu'on est en voyage, eh bien, il se passe toujours quelque chose. Le voyage a plusieurs vertus. L'une des premières vertus du voyage, c'est une formidable entreprise d'amenuisement de l'ego. Hein, Flaubert avait une belle formule. Il disait, ce qu'il y a de bien avec le voyage, c'est que vous voyez la toute petite place que vous occupez dans le monde. La deuxième vertu du voyage, en tout cas celle que je lui prête, c'est de rendre le temps élastique, de l'étendre et de lui donner de l'épaisseur. Et lorsqu'on est en voyage, eh bien, on a toujours l'impression qu'une journée passée en voyage a l'épaisseur d'une semaine, et qu'une semaine a l'épaisseur d'un mois, et qu'un mois a l'épaisseur d'une année tout entière. Et puis, et la troisième et peut-être la plus importante des vertus du voyage, outre que le voyage chasse considérablement l'ennui, eh bien, c'est de vous dessiller le regard. C'est de déguiser votre regard, que chaque jour passé au même endroit finit par émousser. Et donc, lorsque je voyage, eh bien, je suis attentif au carré en quelque sorte. Tous mes sens sont aux aguets, sont à l'affût, et en particulier mon regard. Et donc j'essaye de, voilà, de ne pas être trop sédentaire et de mener une vie semi-nomade qui me permet de déguiser ce regard.
Et ce regard, quand il arrive en France de nouveau, chez vous, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Vous voulez dire après le voyage en Iran?
Oui, par exemple.
Ou en général? Bah, après le voyage en Iran, bon, la première chose, ça a été un soulagement de rentrer d'Iran tout court, parce que le voyage s'est terminé de manière un peu abrupte, puisque je me suis rendu à Saqqez, au Kurdistan iranien. Je voulais terminer ce voyage sur la tombe de Mahsa Amini, et je n'en ai pas eu le temps, puisque j'ai été arrêté dans un restaurant, interrogé dans un garage par les gardiens de la Révolution, qui m'ont signifié la fin du voyage. J'avais 24 heures pour quitter le Kurdistan et 72 pour quitter l'Iran, donc j'ai été expulsé du pays. Mais je mesure la chance qui est la mienne de ne pas y être resté et de ne pas avoir été emprisonné. Et lorsqu'on rentre en France, eh bien, malgré tous les défauts de ce pays, on se rend compte qu'on n'est vraiment pas si mal loti, et que c'est pas si mal de vivre en France, ou pas si mal de vivre en Espagne, ou pas si mal en tout cas de vivre en Union européenne de manière plus large. Et d'ailleurs, je me sens, alors je suis très attaché aux traditions, je pense que, mais néanmoins, je me sens fondamentalement européen. Je trouve que l'expression citoyen du monde est un peu ridicule. Il m'a toujours semblé absurde de se définir comme un citoyen du monde. On a besoin d'être enraciné quelque part, mais moi, je me sens fondamentalement européen. Je suis un écrivain européen de langue française.
Quand, à ce moment-là, dans la ville de Saqqez, quand les gardiens de la Révolution arrivent, mais vous avez quand même 5 minutes pour aller aux toilettes, vous essayez de retrouver ce mot-clé qui était ficus, que vous ne retrouvez pas, et vous essayez d'effacer les images qui étaient encore dans cette corbeille virtuelle qui dure 30 jours. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Moi, quand j'étais en train de lire ce passage, j'étais complètement hors de moi.
Bah là, oui, c'était un moment d'angoisse, puisque donc un gardien de la Révolution s'attable avec moi dans ce restaurant, commence à m'interroger, à me poser des questions, et moi je me dis qu'il faut que je trouve un prétexte pour aller aux toilettes et consulter mon téléphone. Et donc bon, bah il consent à ce que j'aille aux toilettes. Et là, deux choses. La première chose, effectivement, c'est que je devais effacer quelques photos que j'avais prises le matin même, et puis effacer tous les contacts que j'avais pu me faire en Iran, même s'ils étaient sous de faux noms, enfin sous des noms d'emprunt, sous des pseudonymes. Eh bien, j'ai tout effacé, y compris les conversations. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il fallait que je prévienne un ami en France que j'allais peut-être avoir des problèmes. Et j'avais un ami qui m'avait dit, un de mes meilleurs amis, qui s'appelle Augustin, et qui m'avait dit, si jamais tu as un problème, eh bien, il faut qu'on ait un mot de passe, en quelque sorte, un nom de code qui veut dire je suis dans la merde. Aide-moi. Et j'étais incapable à ce moment-là, dans le stress de la situation, de me souvenir de ce mot. Effectivement, ce mot, c'était ficus. Donc, je me souvenais que c'était quelque chose qui se terminait en us, mais je ne savais pas si c'était hibiscus, uranus ou je ne sais quoi. Et finalement, donc, ça ne m'a servi à rien.
Parce qu'à la fin, vous avez envoyé un message qu'avec us. US.
Ouais, je sais plus ce que j'ai envoyé, mais effectivement, c'était pas le bon mot. Mais bon, finalement, je n'ai pas eu besoin de. Finalement, la garde à vue, en quelque sorte, n'a duré que quelques heures, et je m'en suis plutôt bien sorti. Je suis tombé sur des gardiens de la Révolution qui faisaient assez peu de zèle. Il faut savoir aussi qu'il y a des dissensions hein, au sein du régime, et que certains sont plus durs que d'autres. Et moi, bon, bah, je crois que je suis tombé sur des gens qui ne voulaient pas me créer plus de problèmes que ça.
C'est important aussi de savoir pour nos auditeurs et auditrices qu'il y a des photographies qui sont incluses dans cet ouvrage. Pourquoi vous avez décidé de les inclure? Pourquoi c'était important?
Ben ça, je crois que c'est aussi en hommage au récit de Nicolas Bouvier, parce que Bouvier, lui, lorsqu'il est parti, avec Thierry Vernet, vous l'avez dit en début d'émission, qui était un peintre. Et l'usage du monde est illustré par des dessins de Thierry Vernet. Alors moi, je n'ai pas de qualité de dessinateur, mais il m'arrive de prendre des photos et donc j'ai tenu à émailler ce texte de quelques photos. Mais il n'y en a pas beaucoup, il y en a 6 ou 7, donc 7 ou 8. Mais je tenais à ouais, parfois à pouvoir restituer par l'image mon voyage.
Il y a certaines aventures pendant ce voyage où vous êtes accompagné. Il y a des personnes qui apparaissent, qui disparaissent aussi. J'aimerais bien que vous en parliez. Et j'ai aussi un certain intérêt sur l'oasis de Keshit.
Ah, bah le Keshit, ça c'est extraordinaire, puisque même lorsque vous en parlez aux Iraniens, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas où ça se trouve. Et c'est quelque part dans le désert de l'Outh que j'ai traversé pour me rendre à Zahedan, qui est au Baloutchistan, donc à la frontière entre le Pakistan et l'Iran, et qui est une zone formellement déconseillée où même les Iraniens me disaient de ne pas aller. Et quand j'y suis arrivé, eh bien, les Baloutches m'ont accueilli à bras ouverts en me disant bienvenue chez nous. Et donc en chemin, on a fait escale dans cette oasis. Et à Keshit, eh bien, il y a les ruines d'un village dont certains prétendent qu'il aurait plusieurs milliers d'années. Et c'était un des moments les plus forts du voyage. C'était absolument bouleversant. Moi, j'avais l'impression d'être Hiram Bingham découvrant les ruines du Machu Picchu au Pérou, parce que ces ruines de Keshit sont très peu connues, alors que ça pourrait être le Machu Picchu de l'Iran. Et j'y étais à Keshit avec notamment un Suisse et un Allemand. Ce Suisse faisait le tour du monde depuis 5 ans. Il se trouvait déjà en Iran lorsque Mahsa Amini est morte, raison pour laquelle il avait pu y rester. Il continuait à le traverser en direction du Pakistan. Et en chemin, on a pris en stop un Allemand que j'avais déjà croisé à Téhéran et qui, lui, a une histoire assez singulière. L'été, quelques mois plus tôt, il était parti en voyage de noces avec sa femme qu'il venait d'épouser. Ils étaient à Istanbul quand elle lui a annoncé qu'elle en aimait un autre. Et elle est repartie en Allemagne. Et lui avait le cœur absolument brisé. Et il s'est dit que pour essayer de se remettre de ce chagrin d'amour, il allait acheter un vélo à Istanbul et pédaler jusqu'à la pointe sud de l'Inde, avec l'idée qu'en ayant mal aux jambes, il aurait moins mal au cœur. Et c'est voilà, c'est quelqu'un avec qui je suis toujours en contact, qui est très touchant, qui dans chaque endroit, dans chaque pays traversé, achetait une édition locale du Petit Prince
Oui.
d'Antoine de Saint-Exupéry, parce que son ex-femme, enfin sa femme, l'appelait, le surnommait mon petit prince. Et donc il s'était dit qu'en souvenir de cet amour, il allait remplir toute une étagère avec le petit
Le
prince,
Petit Prince.
l'édition du Petit Prince dans chaque pays traversé.
Toutes ces histoires nourrissent bien évidemment votre voyage. J'ai une question peut-être un petit peu plus journalistique, mais j'aimerais bien en parler avec vous. Il y a un moment où vous parlez de l'effet de loupe sur l'information de la part des médias, c'est-à-dire, on pourrait expliquer, la focalisation sur des cas particuliers qui amène à la généralisation abusive. Pourquoi vous avez voulu en parler?
Bah, parce que c'est vrai que lorsqu'on regardait les infos en France ou en Occident concernant l'Iran, on avait l'impression que tout l'Iran était à feu et à sang en permanence. Or, ça n'était pas du tout le cas, d'abord parce que les manifestations, d'abord parce qu'il y avait une très forte présence policière qui dissuadait fortement de manifester dans la rue, et la deuxième chose, parce que les manifestations étaient très spontanées et très éphémères. Ça n'est pas comme à Paris, par exemple, où on se dit rendez-vous à Bastille à 14h et on va marcher jusqu'aux places de la République avec des banderoles en criant des slogans entourés d'un cordon de policiers. Là-bas, vous arriviez au bazar, par exemple, avec un ou deux amis, et puis vous vous mettiez à crier des slogans, Zan Zendegi Azadi, Femme vie liberté, ou Mark Ba dictator, mort au dictateur. Et ensuite, eh bien, vous attendiez de voir ce qu'il se passe. Et parfois, il se passait rien, mais parfois, d'autres gens s'agrégeaient à vous, et puis ça formait un petit attroupement, puis l'attroupement grossissait, et ça faisait une foule. Et la foule était rapidement dispersée, puisque dès que la police arrivait, tout le monde se mettait à courir. Donc les manifestations duraient en général pas moins de 10 à 15 minutes. Donc il y avait un effet de, oui, un effet grossissant, un effet de loupe. Et l'une de ces raisons, c'est sans doute aussi que, eh bien, les journalistes étrangers n'étaient pas en Iran et n'avaient pas, oui, n'avaient pas accès au pays. Et c'est là encore une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment tenu à y aller, précisément parce que j'avais eu la chance d'obtenir ce visa.
C'est bientôt le Nowruz, le nouvel an persan. Je voudrais finir avec cette question. Qu'est-ce que vous voudriez leur souhaiter?
Azadi, qui est la fin du slogan en vogue depuis la mort de Mahsa Amini, qui est aussi la fin de la chanson de Shervin Agipour, Azadi, donc la liberté. Voilà ce que je voudrais leur souhaiter aux Iraniens.
Merci beaucoup, François-Henri Désérable, pour votre
temps,
prie, bienveillance et disponibilité.
Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Nous arrivons au bout de cette émission, mais merci beaucoup de nous avoir accompagnés et rendez-vous mardi la semaine prochaine pour plus de contenu en français.
این هوای آلوده برای ولیعصر و درختای فرسوده برای پیروز و احتمال انقراضش برای سگهای بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوقفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای آینده برای بهشت اجباری برای نخبه های زندانی برای کودکان افغانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعارهای تو خالی برای آوار خونه های پوشالی برای احساس آرامش برای خورشید پس از شبای طولانی برای غرصای اعصاب و بیخوابی برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن زندگی آزادی برای آزادی